Laissez-nous encore un peu vivre d'amour et d'or bleu. Vivre d'amour et d'or bleu.
Oh, quelle belle chanson, Luc, vivre d'amour et d'or bleu. En fait, avant la pause, je vous ai parlé de ce qui se passe en Californie et à quel point l'eau fait, l'accès à l'eau fait une grande différence pour éteindre tous ces feux qui ont déjà causé des dommages incroyables. On parle de 150 milliards de dégâts, puis selon moi, ça va augmenter. Mais il y a aussi Donald Trump, et ça, c'est peut-être un angle mort qu'on ne voit pas encore. Donald Trump pourrait s'intéresser à l'eau du Québec, à l'eau du Canada. Mais il faut savoir que le Québec partage déjà plusieurs plans d'eau avec les États-Unis. On peut donner l'exemple du lac Memphremagog, le lac Champlain et les grands lacs aussi, évidemment. Alors, on a invité avec nous la directrice générale de l'organisme Au Secours, Rebecca Pétrin. Bonjour à vous.
Bonjour.
Merci d'être là. Est-ce qu'on doit craindre Donald Trump? Parce qu'il nous menace avec ses tarifs, mais il veut faire du Canada un 51e État. Est-ce que ça pourrait arriver du champ gauche? Là, c'est une question très hypothétique que je pose, mais certains experts ont déjà soulevé cet enjeu.
Oui, on a raison de craindre. Ça fait déjà plus de 40 ans que les Américains, en fait, les États-Unis, notre eau. Dans les années 80, il y avait une commission parlementaire spécifique au niveau fédéral pour voir s'il y avait de l'ouverture ou pas. Il y a eu une grosse mobilisation citoyenne qui s'est faite à l'époque pour vraiment dire non, on ne doit pas aller dans des transferts d'eau vers le sud, pour la bonne raison qu'à partir du moment où on ouvre cette porte-là, c'est très difficile de contrôler ça par la suite. Il faut comprendre que les États-Unis, s'ils manquent d'eau aujourd'hui, c'est qu'ils ont utilisé en fait leur quota d'eau en maintenant artificiellement des activités majoritairement agricoles, ouais, ou industrielles, au-delà de ce que la capacité pouvait des milieux naturels de se régénérer en eau. Donc, on dit souvent l'eau est renouvelable, est renouvelable. Oui, un certain pourcentage de l'eau est renouvelable. Elle l'est de moins en moins dû au changement climatique. Donc, c'est très important là d'acquérir beaucoup de données sur le renouvellement de cette eau-là avant de commencer à entrer dans des transferts comme ça. Le gouvernement Trump a déjà fait des allégations comme quoi qu'il y aurait un robinet à ouvrir au Canada. Donc, nous, on craint vraiment beaucoup d'avoir de la pression de la part des gens du sud. De manquer de pression par la suite, oui.
Ouais, c'est
puis
ça.
La cible qu'ils avaient visée spécifiquement lorsqu'ils ont sorti publiquement avec ça, c'était le lac Michigan, qui est un des grands lacs qui est à 100% présent sur le territoire américain, mais qui fait partie des ententes Canada-États-Unis de protection, et les transferts de bassins versants sont interdits. Mais à ce niveau-là, tout est politique. Donc oui, malheureusement, on a beaucoup de craintes là, par rapport à ce qui va se passer dans les prochaines années.
Rebecca, oui, je comprends. Je trouve très fort ton argument qui consiste à dire, écoute, ils ont arrosé des golfs à grandeur, puis en veux-tu, en v'là, là. Il y a plusieurs villes de Californie qui sont des villes golfs. Hein. Tu sais que ce sont des golfs autour. T'as des maisons qui sont directement sur le terrain de golf. Le terrain de golf est construit.
Ça.
Mais il n'y en a pas une. Il y en a 10, 15, les unes à côté des autres. Là. 10, 15 terrains de golf, les uns à côté des autres. Une consommation d'eau incroyable. L'agriculture aussi, on le sait. Faire pousser des légumes dans le désert, c'est payant parce qu'il y a du soleil, il y a de la chaleur, il manque juste de l'eau, ben c'est ce qu'ils ont mis, de l'eau. Ça pousse, mais ça prend de l'eau. Mais, je comprends. Je comprends qu'on dit avec quoi, on n'ira pas leur donner de l'eau pour nourrir leurs vices. Mais, il y a un enjeu technique qui est intéressant. L'eau qui coule dans la baie James, par exemple, est perdue. Quand nos rivières arrivent dans la baie James, que ce soit les rivières ontariennes ou québécoises, mais en particulier les rivières ontariennes, après ça, ça devient de l'eau salée. Il y aurait comme un 100 km de barrage à construire, de digue à construire, que ça ressemblerait à peu près à la baie James en termes d'investissement, pour lever le niveau à un point où l'eau coule dans l'autre sens. Puis après ça, le chemin vers le lac supérieur se ferait par les rivières ordinaires, les rivières déjà existantes. Ça, techniquement, ça a l'air tentant.
Mais politiquement, c'est risqué.
C'est le Grand Canal. Ça a été beaucoup étudié justement dans la fin des années 80. Puis, ça peut paraître aussi simple que ça, mais il y a une panoplie d'écosystèmes. Il y a les flux hydriques aussi de la baie James qui seraient complètement changés si on renverse.
Okay.
Oui, on peut pas renverser le cours d'une rivière comme ça. Si on ne voit que l'impact environnemental que ça a de construire un barrage pour augmenter le niveau d'eau, on peut s'imaginer de retirer toute l'eau qu'il y a dans une rivière pour la renverser dans un canal. Puis, on ne fait que commencer, en fait, à comprendre la relation qu'il y a entre les eaux souterraines puis les eaux de surface. Donc, on peut pas dévier une rivière au complet en n'ayant pas d'impact sur les réserves en eau souterraine. Ça, c'est vraiment...
Mais moi, je te parle juste de la dérivée au moment où elle arrive dans la baie James. Pas la dérivée, pas prendre toute l'eau de la rivière de la Grande, par exemple. Juste au moment où elle se verse dans la baie James, tu fais un réservoir, ben on va prendre la rivière de la Grande, mais c'est pas la rivière de la Grande qu'il faudrait penser, c'est une rivière ontarienne. Mais en tout cas, mettons que tu fais ça, là. Au moment où elle s'en va dans la baie James, c'est là que tu as saisi ta capte.
Mais en fait, c'est vrai que le problème est beaucoup politique parce que si on veut en arriver à autoriser ce projet-là, on doit complètement changer la loi fédérale qui interdit l'exportation en vrac.
Ah.
On doit incorporer ça dans les accords de libre-échange nord-américain, chose qui va venir en 2026. Et on doit aussi changer les règlements provinciaux qui interdit aussi la vente d'eau. Fait que c'est comme si on ouvrait une petite brèche pour un cas particulier, mais qui après va devenir incontrôlable parce qu'on ne pourra pas contrôler ça à partir du moment où les lois et les règlements permettent de dévier.
La rivière Columbia aussi.
On veut pas donner d'idée à Donald Trump, là, mais l'accord de libre-échange qui est renégocié, vous l'avez dit, Rebecca, en 2026. J'espère qu'il va se garder une petite gêne puis qu'il ne mettra pas l'élément eau dans la négociation parce que là, on va se retrouver avec un gros problème. Pour ce qui est de la nationalisation de l'eau potable au Québec, on en parle souvent. L'eau, depuis 2009, fait partie du patrimoine commun de la nation québécoise. C'est inscrit comme ça dans la loi de 2009, confirmant le caractère collectif des ressources en eau, mais on n'est jamais allé jusqu'à nationaliser l'eau du Québec. Concrètement, ça voudrait dire quoi, nationaliser l'eau du Québec?
En fait, avec le statut de ressource collective, l'eau n'appartient ni à l'État, ni à des sociétés privées. Donc, c'est un bien qui est non accaparable. Donc, on ne peut pas avoir une propriété. C'est le plus haut niveau, finalement, de protection qu'on pouvait donner à la ressource en eau. Si on décide de nationaliser quelque chose, c'est qu'on en laisse la propriété au gouvernement. Donc, on retire la motion de non-appropriation pour en faire un bien public, donc quelque chose qui appartient au gouvernement. À partir de là, le gouvernement a le beau rôle de dire s'il veut en donner une certaine partie à des sociétés privées ou qu'est-ce qu'il veut décider d'en faire. Tant son temps que ça demeure un bien commun, il y a une perspective de conservation à long terme, donc de développement durable, et d'être moins anthropocentriste puis de conserver cette eau-là comme milieu de vie parce que c'est pas juste important dans son usage, mais c'est également un milieu de vie pour toute une faune et une flore.
C'est
donc, c'est aussi la philosophie qu'il y avait derrière cette politique-là au gouvernement du Québec, c'était de dire, on peut pas voir l'eau juste comme étant une ressource utilisable comme l'hydroélectricité. C'est souvent comparaison qu'on fait. Mais l'hydroélectricité, c'est une création humaine. Donc, c'est quelque chose que nous, on a créé, c'est des infrastructures.
On produit de l'électricité.
L'utilise. Donc, si on pouvait faire un parallèle avec l'eau, on pourrait nationaliser des infrastructures d'eau municipale, exemple de traitement d'eau potable ou usée, mais on ne peut pas nationaliser quelque chose de naturellement présent dans l'environnement.
Mais mon Dieu, c'est la première explication que j'entends aussi fluide, très bon. Parce que les auditeurs, naturellement, disent oui, il faut nationaliser notre eau, sans trop savoir.
Nous-mêmes, on a pensé nationaliser égale protéger, mais non. Ce que tu nous dis, c'est nationaliser égale propriété. Sauf que, ce que je comprends alors, dans la suite de ton explication, c'est que là, pour l'instant, si tu utilises une source, tu dois faire une ponction qui ne permet pas
c'est un droit d'extraction.
C'est un droit d'extraction annuel.
C'est-à-dire que
ne permet pas de tarir la source. Donc, c'est ça. Donc, quand tu dis c'est un bien non appropriable, tu peux pas tarir une source. Tu peux juste capter une source.
Exactement. Donc, le gouvernement a le mandat, en fait, de gérer cette ressource-là au mieux. Donc, il donne des permis de prélèvement aux industries, commerces, institutions qui veulent prélever l'eau avec un total maximum par année. Donc, les entreprises peuvent pas dépasser ce qui sont autorisés. Bon, on n'est pas encore dans le monde idéal au Québec. Il nous manque beaucoup de données sur l'utilisation d'eau. Donc, les petits préleveurs sont pas comptabilisés encore. Il nous manque notamment le milieu de l'agriculture, chose que nous, on décrit depuis longtemps parce qu'on sait que l'agriculture, c'est un secteur qui utilise beaucoup d'eau dans le sud du Québec. On n'a pas de compilation encore des prélèvements d'eau qui sont faits par la majorité de ceux-ci. Donc, il y a beaucoup de compilations de données. Puis il y a aussi, justement, un discours à avoir dans les régions où il y a moins d'eau de à qui on laisse préséance à l'eau par rapport à d'autres. Donc, il y a des municipalités qui commencent à être en conflit avec d'autres usagers, donc des industries, des papetières ou des secteurs qui sont très agricoles aussi. On l'a vu dans les médias dans les dernières années. Ça amène des sources de conflits. Donc, comment gérer ces conflits-là, comment les prévenir aussi un maximum. Donc, on demeure des très gros consommateurs d'eau au Québec, toutes catégories confondues, pas juste les citoyens. Donc, ça aussi, c'est il faut réduire massivement notre consommation d'eau, puis voir prévenir les conflits.
Rebecca Pétrin, il y a un auditeur qui nous écrit, il y a 98-98-5, est-ce que le move d'Olivier Primo d'acheter des parties de droits d'extraction d'eau au Québec vient donc aider notre cause nationale?
Mon point de vue, c'est non, parce que c'est un peu ce que lui met de l'avant avec son terme de valorisation de l'eau. Donc, pour lui, c'est une façon d'enrichir le Québec, enrichir lui-même aussi en même temps. Il dit pas nécessairement directement.
Il fait partie du Québec, le pauvre
Yob. Oui, il fait partie du Québec, puis son discours est bon parce qu'il dit qu'il veut enrichir les Québécois et Québécoises, mais ça demeure de retirer le statut de ressource collective, de bien commun, pour en faire une nationalisation, pour que plus... quelques-uns, en fait, puissent s'enrichir avec cette ressource.
Mais lorsqu'Olivier dit qu'il affirme qu'il est propriétaire de 70 % des sources d'eau du Québec, il n'est pas propriétaire des sources d'eau.
Non, il détient des permis de captation, exactement.
C'est ça le terme scientifique, il détient des permis de captation.
Des permis de captation, de prélèvement d'eau, et on n'a pas, en fait, l'ensemble des informations liées à ça, mais ces permis-là sont toujours liés à un propriétaire. Ils ne sont non vendables, non transférables, contrairement à la Californie où ça transite à la bourse. Au Québec, on n'a pas le droit de vendre des permis de captation et ils sont pour un usage spécifique. Donc, quand le ministère de l'Environnement remet ces permis-là, c'est pour un usage. Donc, si Monsieur Primo détient des permis pour l'embouteillage d'eau ou de boissons diverses, il ne peut pas utiliser cette eau-là pour l'exporter ailleurs ou pour en faire autre chose. Donc, c'est vraiment lié à un usage et à une propriété. Donc.
Rebecca, dans le cas de pénurie, dans un éventuel scénario de pénurie, comment on fait pour prioriser les différentes personnes, industrie, papetière, aluminerie, municipalité et nature, l'eau qu'on veut laisser sur site? Ben, comment on fait pour les prioriser? Puis Hydro-Québec.
On a très peu d'exemples mondialement d'une bonne priorisation des usages de l'eau et c'est pour ça qu'on se retrouve dans des modèles comme en Californie où ceux qui ont l'argent pour payer priment par rapport à ceux qui l'ont pas. Il y a des petites municipalités qui doivent se tourner vers des usines de désalinisation de l'eau qui coûtent très cher parce qu'ils ont plus accès à la ressource qui coûte trop cher. On a eu le cas de Calgary où il y a eu un bris d'aqueduc majeur et la ville a demandé en fait à tous les citoyens de réduire drastiquement leur consommation d'eau. Mais aucune mesure n'a été demandée aux industries et commerces qui étaient sur le territoire. Donc, c'est des modèles d'inéquité. On le voit et on comprend que les instances publiques sont pas outillées pour prendre des décisions quand qu'arrive le conflit. Donc, c'est des réflexions qu'on doit avoir en amont. Puis pour ça, il faut avoir vraiment les chiffres exacts sur l'usage de l'eau, puis voir en fonction du développement de la région et tout. C'est clair que les municipalités doivent primer là, sur leur prélèvement en eau. Après, dans les municipalités, il y a certains usages qui sont plus importants que d'autres. Mais pour l'instant, au Québec, on manque clairement de données sur les usages, puis on manque aussi d'outils décisionnels. Là,
pour d'outils de contrôle, si je ne m'abuse, parce que c'est une autodéclaration. Hein? C'est les consommateurs d'eau déclarent l'eau qu'ils ont.
Là, tu parles du secteur industriel, c'est ça? Des grands secteurs industriels?
Si je ne m'abuse, ouais, au moins le secteur industriel, peut-être d'autres secteurs. Ouais. Je ne sais pas si tu as des informations là-dessus, Rebecca.
Il y a des estimations qui sont faites dans plusieurs secteurs, dont le secteur minier. Faut savoir là que en ce moment, ce qui est public puis qui est suivi, c'est tous les prélèvements de plus de 50 000 litres d'eau par jour. Donc là, on parle de très gros préleveurs. Tous les autres, ça dépend vraiment des municipalités en fonction de la consommation d'eau qu'ils ont par moyenne par habitant. Ils ont des cibles à atteindre par le ministère. Donc certains ont des compteurs d'eau à la maison, d'autres en ont pas. Donc c'est en déploiement au Québec, c'est pas uniforme. Ça prendrait une capsule juste là-dessus.
Oui, oui, mais ça me fait penser avant de parler des multinationales là, qui siphonnent notre eau. Moi, Luc, j'étais maire, j'étais mairesse. Moi, à Maria, il y a un hôpital. Puis je vous écoute, là, puis je me dis, lorsque j'étais mairesse, je ne savais pas combien l'hôpital consommait d'eau.
Ah, non,
oui. Non, parce qu'il n'y
a pas... Il n'y a pas de...
Non, aucun mécanisme, pas de compteur, puis un CHSLD, une école primaire d'une certaine époque, l'hôpital. Alors ça, c'était très intéressant. Donc, revenons aux multinationales qui siphonnent plus de 2 milliards de litres d'eau en provenance du territoire québécois. Est-ce qu'elles paient leur juste part pour ce qui est des redevances?
Les redevances ont été changées dernièrement au gouvernement, donc on les a vues à la hausse. On est allé à peu près à côté des tarifs qui sont demandés en Ontario. Donc, les tarifs de base, donc pour de l'eau qui est prélevée, disons pour des eaux de lavage ou de climatisation de procédés, donc qui sont relâchées dans l'environnement par la suite, les industries payent 35 $ pour 1 million de litres d'eau. Pour des eaux qui sont incorporées aux produits, donc de l'embouteillage, de l'alimentaire, tout ce qui est agriculture, si les agriculteurs devaient payer un tarif, c'est le tarif qu'ils paieraient, c'est 150 $ pour 1 million de litres d'eau. Et le tarif le plus élevé, c'est pour les embouteilleurs d'eau. Donc, ils ont une surtaxe supplémentaire, ce qui fait qu'ils doivent payer 500 $ pour 1 million de litres d'eau.
Ce qui revient à combien par litre? Je pense que c'est à peu près une scène, non?
C'est une demi-scène environ. Demi-scène, ouais. Donc, si on compare avec les chiffres là, du Nasdaq de la Californie, qui ont monté, en fait...
Ils sont à la bourse, eux, hein?
C'est des actions qui sont transitées à la bourse. Donc, de 2024 à 2025, c'est passé de 200 $ US à environ 400 $ US pour un peu plus de 1 million de litres d'eau.
Donc, 1 million, eux, ils calculent, ils disent un pied sur un acre.
Oui, exact. Ouais. Mais on a vu l'estimation, c'était à environ 1,2 million de litres d'eau. Ce qui fait que nos embouteilleurs payent à peu près le tarif que les usines en Californie paient pour l'ensemble de l'eau. Donc, ça nous donne une perspective de combien.
Oui, ça, s'il te plaît.
C'est 200-400 $.
Si les agriculteurs devaient payer la redevance du Québec, ils paieraient 150 $ pour 1 million de litres d'eau.
Ouais.
Le même agriculteur en Californie paye 400 $ US, donc environ 600-650 $ US pour
plus.
Le même million. 4 à 6 fois plus. Donc, est-ce que la redevance est basse au Québec? Oui. Après, on ne peut pas défavoriser nécessairement pour une ressource. On a beaucoup plus d'eau qu'en Californie. On n'est pas dans le même portrait que là-bas. Par contre, il y a encore beaucoup de possibilités d'augmentation.
Ouais.
Les embouteilleurs le disent eux-mêmes.
Oui.
L'augmentation de la redevance n'a pas eu d'impact sur le prix du produit fini.
Parce que d'eau minérale, ça coûte, mettons, $1, $1.50. C'est un sou, le prix de l'eau là-dedans. C'est bien clair que tous les autres sous, tous les autres coûts, comme la main-d'œuvre, le transport, sont bien plus chers que l'eau elle-même.
Exactement.
Ça coûte, un litre d'essence coûte plus cher qu'un litre,
comme un litre d'eau coûte à peu près le même prix.
Qu'un 500 ml, mettons, une petite bouteille d'eau.
Ah oui, bon.
Alors, enfin, mais tu vois, le ministre des Finances cherche des nouvelles sources de revenus au Québec, là. Ça pourrait en être une, ça.
Il l'a déjà augmenté il y a 3 ans.
Pour l'augmenter à nouveau, Luc.
Ouais, non.
Un petit coup. C'est fort intéressant, Rebecca, parce qu'on a appris plein de choses, honnêtement, la différence. On a démystifié ce que veut dire la nationalisation de l'eau au Québec. Merci à vous tous, chers auditeurs, pour vos nombreuses réactions. C'est un enjeu qui intéresse les Québécois, parce que le Québec, on est béni des dieux, on possède 3% des réserves d'eau mondiale, d'eau potable au monde. C'est quand même pas rien, hein? Alors, raison de plus d'aimer le Québec et le Canada, mon cher Luc.
Voilà, on est fiers.
Merci beaucoup.
Merci.
Rebecca Pétrin, directrice générale de l'organisme Au Secours. Excellente fin de journée. Merci. 90.